grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons entendre une interview que j'ai réalisée cet été à Douarnenez, au festival de films des minorités qui était consacré aux Tziganes, et où j'ai eu le plaisir de rencontrer Raymond Gurem. Raymond Gurem est un vieux monsieur, il a 89 ans, et il a été interné pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps d'internement pour nomades en France, mais également en Allemagne. Mais écoutez-le, il va vous raconter tout ça. Je m'excuse aussi auprès de vous de... on va dire la mauvaise qualité de l'enregistrement parce que c'était au festival de Douarnenez et dans la salle dans laquelle j'interviewais Raymond Gurem, il y avait des gens qui parlaient des fois un petit peu fort. C'est les vicissitudes des interviews sur le terrain. Donc, pardon d'avance, mais écoutez, c'est passionnant. Eh bien, je suis en face de Monsieur Raymond Gurem. Raymond Gurem, c'est un homme d'un certain âge déjà.
89.
89 ? Ah, bravo ! Et vous avez vécu des choses un peu particulières,
horrible.
On va dire. Horrible, oui.
Horrible.
Et j'aimerais bien que vous nous en parliez.
Eh bien, en 1940, mon père vient un cirque, un cinéma. Et le 5 octobre 1940, on a été arrêté par la gendarmerie française. C'est pas par les Allemands, hein, c'est par les Français. Et de là, ils nous ont emmenés dans les camps. Donc, dans une usine de l'impéqué à Darnétal. On a resté un mois, on a du 5 octobre au 27 novembre. Et au matin, à 6 heures, les pics sont revenus. Ils ont dit, vous avez une heure pour préparer un peu de main, je nous suis. Voilà. Alors, après, ils nous ont mis dans les camions. Ils nous ont descendu à la gare de Sotteville à Rouen. Et ils nous ont mis dans les wagons à bestiaux. Il y avait 3 wagons sulquets, ils nous ont mis dedans. Il y avait 200 personnes. Et de là, on a roulé toute la journée. On est arrivé le soir à Lina Montlhéry. Et là, quand on est arrivé, il y avait 2 cordons de gendarmes et de policiers qui nous attendaient. Et quand on avait resté toute la journée debout, sans manger, sans boire, les gens étaient fatigués, surtout les vieillards qu'il y avait, puis les petits-enfants. Alors, comme ils ont vu ça, les gendarmes français, ils les ont matraqués à coups de crosse et de matraque pour les faire avancer plus vite. Alors, comme on a vu ça, les femmes, ils ont mis les vieillards au milieu avec les enfants, et ceux qui recevaient les coups de matraque. Pour pas que les vieux reçoivent des coups de matraque. Et de là, ils ont fait marcher à travers champs, à travers bois, pour pas que les gens nous voient. Et on est arrivé le soir à Lina Montlhéry. Mais avant qu'on arrive, il y avait l'électricité dans les baraques. Ils avaient enlevé les ampoules. Ça fait qu'on était dans le noir, le premier soir on a couché sur les planches. Avant nous, il y avait les soldats qui s'apprenaient à monter en moto, là, machin motorisé. Et nous, on les a remplacés. Mais eux, ils avaient tout, il y avait l'eau, il y avait l'électricité, tout, vous voyez. Alors pour pas qu'on ferme l'électricité, ils avaient enlevé les ampoules. Et le lendemain, comme les petits gosses, les petits bébés, ils avaient soif. Ils avaient réclamé du lait le soir. Ils ont dit, oh, bon, on verra ça demain matin. Il dit, à ce temps-là, on ne peut pas avoir de lait. Et le matin, comme ils ont réclamé le lait, parce qu'il y a des petits bébés qui vivaient de biberon encore. Hein. Alors, vous attendrez, le laitier n'est pas passé. Bon. Alors, ils ont amené un broc de 20 litres de lait pour peut-être 30 petits gosses comme ça. Quoi. Hein, ça faisait quoi, un litre même pas un litre. Hein. Et après le lendemain, ils ont attendu, bon, le laitier, il n'a pas passé. Quoi. Ça fait qu'ils ont été obligés de donner de l'eau comme ça aux gosses. Et après, ça s'est enchaîné. Et puis... Alors, la nourriture, c'était tout ce que les fermiers du Tour, ils ne pouvaient pas vendre, tout l'invendu. Ils le ramenaient au directeur du camp, ils donnaient une poignée de cerises, après, ils nous nourrissaient avec ça. Même que c'était périmé. Parce que comme ils faisaient la soupe, il n'avait même pas les légumes, il n'y avait pas de graisse, rien dedans. Hein. Ce qu'il y avait, tous les chenilles, les asticots, ils remontent aussi, c'est le bouillon. Hein. Au début, on les a enlevés, mais après, comme on l'avait peint, on les mangeait.
Alors, ils vous ont jamais donné la moindre raison pour cette arrestation?
On ne sait pas encore maintenant. Hein, on n'a jamais su pourquoi. On n'avait pas commis de délit, on n'avait rien fait. Parce qu'on avait nos roulottes, on était dans une caravane. C'est pour ça qu'ils nous ont arrêtés.
Et vous êtes resté prisonnier toute la guerre ?
Ah non, 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 non. Mes parents, oui. Parce que mes parents, là, de Nalon-Nital, ils l'ont transféré à Montlhéry. De Montlhéry à Mulsanne. Et de Mulsanne à Montreuil-Vallée. Mes parents, ils ont fait quel camp ?
D'accord.
Moi, j'en ai fait que deux parce que je me suis évadé.
Ah.
Ouais, je me suis évadé deux fois. La première fois, j'étais pris parce que je m'avais réfugié chez un de mes cousins qui était sédentaire. Et le maire, qui était bien avec mon cousin, il a dit qu'il faut écrire où qu'il est né pour avoir un acte de naissance. Parce qu'il fallait des cartes d'alimentation pour avoir du pain, voilà.
Sûr.
Alors, ils ont écrit, on attendait l'acte de naissance, mais le matin à 6 h, les gendarmes se sont cueillis. Ils nous avaient dénoncé. Voilà, on a été rattrapé. Là, on a fait un mois de mi-tard, moi et mon frère. Parce que comme ils nous ont arrêtés, ils ont amené les menottes. Après, quand on est arrivé à la gendarmerie d'Armartin, dans le Seine-et-Marne, là, ils ont discuté, après ils ont mis avec des chaînes, ils nous ont mis les chaînes aux pieds, moi et mon frère. Hein, puis ils nous ont ramenés au camp comme ça. Voilà. Alors moi, mon frère, la deuxième évasion, il n'a pas voulu. Tu vois, on a fait un mois de mi-tard. C'était un bout de pain, il y avait le bout pour les trois jours. Hein. Bon, il a dit ça fait que je me suis évadé tout seul et j'étais au cachot quand je me suis évadé. Parce qu'il y avait un petit gitan, un petit gosse, quoi. Il essayait de repasser, mais les gens, ils le repoussaient. Parce que bon, ils voulaient avoir leur ration, quoi. Parce qu'ils passaient, il n'y avait plus rien, ils ne mangeaient pas. Hein. Alors moi, comme il avait l'habitude que je disais rien, il était devant moi. Et un jour, le gardien, il l'a vu. Il dit, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, je lui ai dit, s'il est là, c'est qu'il a faim. Il veut un peu de soupe. Ah, tu veux de la soupe ? Il a mis un coup de louche sur la tête. Le gamin évanoui par terre. Moi, qu'est-ce que je fais ? Le gardien qui était à côté de moi, je mets un coup de poing à la gueule. C'est automatique. Hein.
Mm-hmm.
Alors, ils m'ont foutu un mois de mi-tard et puis... Et j'ai pas fait un mois de mi-tard. J'ai fait une semaine avec les menottes comme ça. J'ai gratté autour des clous et j'ai fait bouger les planches. C'était bien. Mais c'était pour enlever les menottes, parce que j'avais les menottes jour et nuit attachées. Hein. Alors j'ai mis les pieds puis j'ai tiré. Vous voyez là, ça me va toujours. Vous voyez, les veines étaient arrachées et tout. Et j'ai arraché les menottes. Et quand j'ai tapé dans la porte pour défoncer la porte, il y avait les gardiens qui étaient à côté dans les barrages, ils ont couru. Alors quand j'ai vu ça, je dis, ça y est, j'ai monté dans un arbre. Et j'ai passé la nuit dans l'arbre. J'ai descendu que le matin. Excusez les patients, mais même que j'étais... Alors je dis, les cons, ils cherchent par terre, je suis en l'air.
Et vous avez réussi à vous planquer jusqu'à la fin de la guerre, alors ?
Non, j'ai été repris.
Encore ?
Ouais, ah mais c'est pour plusieurs points. Hein. C'est-à-dire, mes parents qui étaient à Montreuil-Bellet, j'étais parti en Bretagne, je travaillais, je faisais les saisons, j'avais des petits pois, haricots, tout. Et quand j'avais un peu d'argent, j'achetais au marché noir. Et le soir, j'étais ça par-dessus le grillage où mes parents étaient. Alors à chaque fois que j'étais, je disais à ma sœur, quel jour à telle heure, tu te mets là, j'achèterai quelque chose. Alors en courant, j'étais... Voilà, puis un jour, un gardien, il m'a vu. Alors ma sœur, bien attention, moi, il te mange où ? Je me retourne, j'ai pris le fusil et 3-4 coups sur la tête. J'ai cassé le fusil sur la règle. Après, je pouvais plus y aller. Ouais. Alors après, bon, j'étais en Bretagne, là. C'est avant ça, oui. Et j'étais en train de rouler. Il y avait un breton, un vieux paysan, là. Il avait un vélo. Et je regarde le vélo. Avec rien, avec ça, j'irais mieux hein, pour aller. Alors j'ai dit, combien tu prends ton vélo ? Ah bah dis, je te le vends pas, je te le donne. Mais à force de rouler, il n'y avait plus de pneus, plus de chambre à air. Il faut les débons pour acheter le... Hein ? Alors hop, ils m'ont chargé, ils m'ont mis à la maison de correction.
Il finit, tu pour moi. traces de goudron ont remplacé nos buissons, nos chemins, nos hérissons. Le soir, autour d'un feu, on écoutait les vieux, toutes ces conversations étaient dans
plus.
vous aviez quel âge là alors ?
16 ans.
16 ans.
Je me suis encore évadé. Ils m'ont rattrapé. Et là, y avait des gardiens qui, de la maison de correction, ils étaient gentils. Hein. Alors, il me dit, tu vas faire comme tes copains, tu vas faire du sport. Alors moi, j'ai dit au gardien, j'ai dit, pourquoi faire du sport ? J'ai dit, moi, je fais mon sport, mais c'est mon sport à moi. Alors j'ai tourné 3-4 sous-perriers dans la cour, et hop, on m'a dit, oui, c'est bon, c'est bon. Alors j'ai dit, maintenant, si vous voulez, je voudrais travailler. Ça fait qu'il m'a fait embaucher à l'hôpital, dans les salles des malades, là. Je ramassais le linge sale, je mettais du linge propre. Et là, il y avait un homme qui était blessé. Mais c'était un résistant. Tu vois, puis je ne savais pas. Alors, juste devant sa fenêtre, il y avait la cuisine et les gros camions qui ramenaient leur ravitaillement, quoi. Juste devant. Et à chaque fois, il me dit, oh, si il y en a qui connaissent, qui auraient ça, ils seraient heureux. Je faisais pas de cas, tu vois, moi. Alors, j'ai dit quoi ? Après, j'ai dit quoi ? Pourquoi ils seraient heureux ? Ben, je dis, voilà, je peux te le dire, je te connais maintenant, j'ai confiance en toi, je fais partie de la résistance. Mais les hommes, ils auraient ça, ils seraient heureux parce qu'ils n'ont rien à manger. Moi, si à ça, je vais sortir le camion. Ça fait, j'ai sorti le camion. Mais le directeur de l'hôpital, il m'a vu. Il m'a dénoncé au Bosch. Ouais, ouais. Alors, ils m'ont rattrapé. J'ai fait 6 mois de prison comme otage parce que j'étais considéré comme... Bon. Et donc là, j'ai passé le tribunal militaire. Ils m'ont renvoyé à Troyes dans l'Aube. Et de Troyes dans l'Aube, un jour, on était à 3-4 parce qu'il y avait des résistants là-bas. Il y avait des femmes, des vieux, tout ce que les résistants prenaient, les mettaient là. Et il y en a qui est passé, il dit, vous voulez travailler ? Ben, je dis oui, hein, qui était resté toute la journée dans la cellule à rien faire. On a signé qu'on voulait travailler. Puis on a attendu 15 jours, pas de réponse. Alors là, je dis oui, ils sont foutus de nous. Hein. Puis un beau matin, ils nous ont appelés, ils nous ont mis dans les camions, ils nous ont emmenés à la gare. Ils nous ont mis dans les wagons à baissiers direct l'Allemagne. Je dis ça y est, on a coincé quoi. Alors arrivé en Allemagne, ils m'ont mis dans un camp disciplinaire. Tu vois. Et ils m'ont mis un habit, un numéro, et voilà, c'était parti, quoi. C'était je me suis évadé 2 fois. La première fois, ils m'ont rattrapé. Je me suis évadé j'ai laissé le travail, je me suis sauvé avec 2 de mes copains. Et mon dépôt, on s'est perdu dans la forêt noire. Une semaine à tourner en rond comme ça dans la forêt noire. Et on n'a rien à manger, rien à boire. Alors j'ai dit à mes 2 copains là, parce qu'il y en avait un qui avait été arrêté par Barbie là, il était à la prison de Montluc, ils l'ont expédié là-bas aussi. Alors j'ai dit, les bêtes ils mangent bien des feuilles pour ils vivent bien pour manger. Vous savez qu'on a mangé des feuilles et tout, hein, ça nous coupait la soif et la faim. Et après ils nous ont ramenés dans un autre camp. Le premier c'était Edernem, le deuxième c'était Oberhussen. Mais là, c'était la haute discipline. On s'est gardé par les SD. Tu sais, les grosses têtes de mort sur le képi, habillés tout en noir. Ils étaient plus méchants que les SD. Tiens, un coup de matraque, tu vois. Directement cassé le nez. Là, j'ai un trou comme ça dans la tête derrière. Un coup de crosse. Ouais, puis un jour, j'étais en train de vider un wagon. Et le cheminot, je discute avec mon copain, celui qui était arrêté à Montluc, là. Par Barbie, là. Mais il dit, vous êtes français ? Ben, je dis, oui, on est français. Il me regarde et, oh là, t'as l'air d'être bien jeune, toi. Ben, je dis, oui, je suis jeune, pourquoi ? Il dit, qu'est-ce que t'as fait ? Je dis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait, moi, là, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Alors, bon, il dit, écoute, je te promets pas, mais quand je reviens, si je peux t'emmener, je t'emmène. Il dit, tu serais content d'en sortir l'air de la France ? Ah, j'ai dit, comment ? Bon, là, j'attends, toi. Parce que lui, il est Francfort, Paris, tu vois. Il ramenait tout le ravitaillement pour les Bosch en Allemagne, là-bas. Hein? Je vois le train arriver, tout ça. Il descend, il dit, prends le premier wagon. Mets-toi au premier wagon. Et comme le gardien sera au bout, il dit, tu sautes dans le speeder de la loco. Allez, hop, j'attends le gardien. Mais comme mon copain était avec, j'ai bien avec moi. Ça fait, il a sauté dans le wagon avec. Hein? Il avait fait une petite niche dans le charbon. Et on, au lieu d'un, on était à deux, quoi. On était serrés, il y a un peu de charbon, il a éboulé. Alors, le gardien, comme il a vu qu'il manquait deux hommes, il a signalé à Evogard. Ils ont stoppé le train, ils ont mis les chiens, ils ont fouillé partout, ils ont regardé à la locaux, tout. On a eu peur, enfin on a eu peur. On a resté une heure là, tant qu'ils fouillent le train avec les chiens, tout. Ils ne l'ont pas trouvé. Mais arrivé à la frontière, rebelote, pareil. Hein, on était toujours dans le charbon, nous. Tu vois, mais ils n'ont pas monté. Ici, il y en a un qui a monté, il a regardé comme ça, tu vois, puis il a redescendu. Et on a roulé un peu, d'un coup, le cheminot, là, il me dit, « Allez, tu peux sortir, mon enfant. » Ben, moi, je sors. Tout d'un coup, il dit quoi? Ben, je n'allais pas laisser mon copain, là. Il dit, « Oui, t'as raison. » Ben, il dit, « Merde, c'est bien, ben, bon. » Alors, ça fait que, comme on avait évadé avec le costume, tu vois, c'était un costume, et il y avait des rayures rouges et des grosses lettres dans le dos, puis le numéro, là. Alors, bon... Il dit surtout, sortez pas, tu vois, il y avait la Gestapo dans la gare, tout ça, il y avait les collabos, il y avait tout. Hein. Il dit, attendez-moi et je vais vous chercher du linge. Ça fait qu'il est revenu avec une veste, une chemise et puis une culotte. Et puis... Après, il nous a invités à manger, il dit, maintenant les gars, démerdez-vous. Alors d'être là, moi, quand je connaissais un officier, là, tu sais, de. Un gradé de la police, là. Ceux qui nous gardaient,
ouais.
un officier, quoi.
Ouais, ouais.
Il m'avait dit un jour, Raymond, si t'as adjoint, je serai présent. Alors quand j'ai repensé à ça, que mon copain, je le trouvais, et j'ai dit, tu te rappelles, ben, tu m'as dit un jour, j'ai besoin de toi, tu serais... Ben, il dit, je suis toujours présent. Alors il voulait me faire embaucher dans l'usine de sa fille. Ben, j'ai dit, non. Bah, dis qu'est-ce que tu veux, je vais rentrer dans la résistance. Deux jours après, deux hommes sont venus, je vous ai emmené, puis j'ai fait la résistance. Et après, je suis rentré dans l'armée régulière.
D'accord.
Et après, bon, jusqu'à la capitulation des Boches. Alors après, ils voulaient m'envoyer pour garder, tu sais, les troupes d'occupation. Mm-hmm. Alors, je dis non, je dis hop, terminé, la guerre est finie, c'est fini.
Nous sommes des tziganes, on n'a pas d'abri, on vit toujours sur les routes. Repoussés par là, chassés par ici, méprisés de tous et de toutes. Jamais de repos, toujours de fardeau de notre race. La haine nous poursuit, toujours incompris, nous roulons vers l'infini. Mais là-haut dans le ciel, notre barreau d'hiver nous a préparé à propager pour nos bénédictions. Car pour nous aussi, Jésus a donné sa vie. Il a tout pardonné, il a tout effacé dans le noir passé. Les cheveux au vent, nous sommes les gitans, le peuple du voyage. À peine installés, il faut décamper sous le grand soleil sans ombrage. Confiants pour demain, même si nous avons faim, nous aimons l'aventure. Car sans hésiter à la sécurité, nous préférons la liberté. Et là-haut dans le ciel, notre barreau des mers nous a préparé à nous parler pour l'éternité. Car pour nous aussi, Jésus a donné sa vie. Il a tout pardonné, il a tout effacé, notre noir passé. Depuis que Jésus est venu chez nous, on a ôté la barrière. Car son grand salut fut donné pour tous, les gagés sont aussi nos frères. Même quand les clistés nous font des procès, nous leur parlons du Seigneur. Nous
nous leur pardonnons et désirons qu'ils trouvent aussi leur sauveur. Et là-haut dans le ciel, notre drapeau d'hiver nous a préparé pour aller au bout de l'éternité. Il a tout dévasté, notre loi passée. Il a tout pardonné, il a tout dépassé, notre loi passée.
Et alors, t'as repris le voyage après la guerre ou...
Oui. Oui. Parce que moi, j'ai cherché 10 ans après mon père. Quand ils ont lâché mon père, quand il est rentré à Montlhéry, là, ils ont pris tout son argent, ils l'ont mis au bureau, tous les bijoux, tout. Mais comme il est sorti du coin, en 43, ils n'ont rien donné, pas d'argent, pas de billets, plus rien. Alors mon père, il est parti comme ça, avec tous mes frères et sœurs sur la route, pour regagner Darnétal. Donc on avait laissé notre matériel. Mais quand ils sont arrivés, il n'y avait plus rien. Tout avait disparu. Alors mon père, du coup, il a pris la Belgique et puis il est parti en Belgique. Et mes trois sœurs, ils n'ont plus voulu revenir en France parce qu'un an, la France, elle nous a fait trop souffrir. Non. Ça fait qu'ils sont mariés en Belgique et ils ont des gosses.
Et toi, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, j'allais dire
J'ai recommencé à travailler dans les champs. Parce que mon père, il aurait bien repris le cirque, le cinéma. Mais avec quoi?
Ben oui.
Il fallait. Il n'y avait plus rien. Alors. Déjà, comme il est arrivé en Belgique, ses frères et sœurs, ils ont payé un cheval, une caravane. Et ils ont monté un petit métier, tu vois, pour faire les fêtes. Ça coûtait trop cher. Alors moi, comme en Belgique, j'ai resté un moment, puis j'ai dit à mon père, oh, je retourne en France. Ben, mon père, il dit, tu retournes en France, je retourne avec toi. Mais mes trois sœurs, ils ont réussi, donc ils ont revenir. Ça fait qu'ils sont mariés là-bas, et voilà. Alors après, on a continué à travailler dans les champs. Et... Alors moi, après, j'ai réussi à gagner un peu de sous. Je me suis acheté des chevaux et j'avais un manège de poney. Je faisais les plages, je faisais le bord de la mer. Avec. Et voilà. Et maintenant, je suis à la retraite.
Et t'es en maison maintenant?
Oui. J'ai une maison, mais j'ai toujours ma caravane.
Ah oui?
Et je couche dedans, je ne couche pas dans la maison. Hein.
Ah, alors voilà, moi je suis un bon gadjo.
Ouais.
Et je trouve que, si tu veux, on est tous pareils, hein. on est tous humains. Hein.
On est tous des humains,
hein.
Que tu sois noir, blanc, vert, rouge.
T'es
ou
bien
bleu.
D'accord. Et on me dit que... Les gitans, les manouches disent toujours « Oui, mais il y a une différence entre nous et vous, les gadjés. » Toi, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment différent?
Il n'y a pas de différence. On est tous les mêmes. Mais c'est la mentalité des gens.
Voilà. Alors, c'est quoi la mentalité?
Voilà, des gitans, des machins, voleurs de poules, voleurs d'enfants, patati, patata. Mais ça, c'est dit qu'on a bien grand-mère. Alors moi, j'ai 15 enfants. Hein? Je ne vais pas aller voler celui-là du voisin, que j'en ai 15. Hein? Bon, peut-être une poule, si j'ai pas. Ouais, mais... Hein? Ben non, il n'y a pas. Tiens, moi, au début, là, quand je suis arrivé, là, les gens ils ont fait une pétition pour me faire expulser. Tu vois? Bon, il y en a qui ont signé, il y en a qui n'ont pas signé, tu vois, c'est la mentalité du monde. Et maintenant, ceux qui ont fait la pétition, ils doivent boire le café chez moi. Hein? Faut coopérer avant de discuter.
Bien sûr.
Hein? Tu connais pas, tu sais pas. Comme toi, je sais pas ce que t'es. Tu sais pas ce que... Oh merde, tu sais pas ce que je suis. Hein? Alors, faut pas dire si, ça, avant de savoir. Moi, ce que je crois, c'est ce que je vois. Moi, comment raconter... je suis sourd, moi. J'écoute pas. Les raconteurs, les machins, les trucs. Mais ce que je vois, oui. Ça, j'y crois. Mais à part ça, c'est fini.
Eh bien, je vais te dire un grand merci, Raymond.
Il n'y a pas de quoi.
Et puis, je vais te souhaiter pour le reste la chaudrome.
Ouais, moi avec, et toi qui sais coder, ça veut dire la chaudrome.
Bonne route.
Ah, tu ne sais pas se répéter, dis donc. Alors, mais... tu peux dire aussi la chaudibef.
Oui, bonjour. Ouais.
Voilà. Ah, tu auras câble romanesque alors.
Merci. Ben, j'ai, si tu veux, moi je me penche là-dessus depuis 3 ans.
Ah, ouais, ouais,
et
ouais.
Je découvre, c'est passionnant. Quoi.
Ouais.
Et puis moi j'aime les gens. Hein. Comme tu disais, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de.
Toi, moi je fais les écoles, les lycées. Je raconte, tu vois, les petits noirs, les petits blancs, vraiment. J'ai dit, toi, ton sang, quelle couleur qu'il est qui coule dans tes veines. Ben il y en a, il n'aime même pas s'y répondre la couleur qui est du sang, tu vois. Bon, j'ai laissé, j'ai dit, toi, un blanc et puis un noir. Le noir, il me dit, ben, il est rouge, mon sang. J'ai dit, toi, quelle couleur, il est rouge. Mais alors, il n'y a pas de différence. Il ne faut pas regarder la peau, il faut regarder le sang qui coule dans les veines.
Non, non, et puis, ouais. Je crois que c'est partout pareil. Hein.
C'est le racisme.
Bien sûr.
Bon, discrimination et le racisme.
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des cons partout, qu'il y a des méchants partout, des cons, et il y a des bons partout.
Des cons, il y en a toujours eu.
Bah, oui, mais partout.
Il y en aura toujours.
Mais partout, ils ne sont pas...
Ah oui, bah.
Bah, en tout cas, un grand merci, Raymond.
Il n'y a pas de quoi. Hein.
Dans ces baraques au lit superposé, derrière les barbelés, là-bas vous êtes restés. Visage basané, cheveux en liberté, vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez là. Aucun bagage, pas de richesse derrière vous. Vous les enfants du voyage, qui se souviendra de vous? Pas besoin d'une étoile jaune pour vous reconnaître de loin. Pour monter dans ces trains qui vous mèneront là-bas à Auschwitz, au Tribeca, dans l'enfer de ces fonds, votre histoire en lettres de sang. Il aura fallu du temps pour que des livres d'histoire rendent leur votre mémoire. l'Asie pour faire avancer la science. Quelques médecins m'ont dit pratiquer des expériences sur vous et sur vos petits. Vous étiez une race à part pour le docteur McGillé, une espèce d'oiseau rare qu'il se devait d'étudier. L'escapé des crématoires, les anciens sur leurs bras, un tatouage bizarre, le temps n'y passera pas.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je crois qu'il était important d'écouter ce témoignage puisqu'il fait partie de notre histoire un petit peu oubliée. Et ce serait bien de reconnaître quand même ce qu'on a fait à nos bohémiens à cette période. Bon, eh bien, je vais vous quitter pour aujourd'hui en vous souhaitant la chaudrome. Et comme d'habitude, sur le générique de fin, je vais vous lire deux textes. Ce sont des textes d'une dame qui s'appelle Fikria Fazli. C'est une Rome macédonienne. Le premier texte a pour titre « Que m'as-tu donné, père ?» Que m'as-tu donné, père ? Et mon âme est comme une pierre dure. Peut-être tes chansons que tu chantais aux enfants, tes lettres que tu écrivais aux Roms, tes mains peut-être, ou encore tes yeux dont tu indiquais les routes. Tu m'as laissé, père, ta douleur romanie, qu'en moi, comme en toi, elle mord lorsque d'un couteau on me coupe les ailes. Je n'ai pas pleuré, père, j'ai chanté. Les femmes romanies ne pleurent pas, même quand elles se consument, père. Elles ne versent pas une larme. La douleur, elle la soulage en chantant. Mes poèmes, père, sont des chansons romanies. Mon âme est liée en elles. S'il est resté, père des Roms, par les chemins, ils entendront mes chansons. Deuxième texte a pour titre « Les nègres blancs ». Les Roms sont des nègres blancs, sans terre, sans mer. Ils cheminent là où vont les routes, ils meurent là où coulent les rivières. On n'a fait que nous couper les ailes, on a mis nos pères à la torture. Les gadgets ont poussé nos fils à oublier qu'ils sont Roms. Écoutez, écoutez-moi, Roms vivants, regardez-moi, regardez, jeune fille romanie, mes larmes coulent mêlées de sang, mes chants pour vous sont romanie. Nous avons bien notre terre, bien loin chez la petite mer noire, mais elle ne peut oublier ses fils, les nègres blancs du monde. Tu es bien vivante, petite mère. Bonheur à toi, l'ancienne, depuis tant de siècles, tu regardes comment rassembler tes fils. Il y a des Roms sur terre, des Roms qui oublient qu'ils sont Roms. Nous sommes Roms. Jamais ils ne le disent de honte. Rassemble-les, petite mère, rassemble-les, toi, l'ancienne. Ouvre ces yeux qui sont clos, rends-leur leurs ailes coupées, qu'ils s'élèvent tout là-haut, plus haut encore que le soleil, de là-haut qu'ils puissent voir leur petite terre et la reconnaître. Nous, les Roms, sommes des nègres blancs.